Vous écoutez La Grenouille pour l'heure qui vient, c'est une émission spéciale, grand entretien avec l'actrice Nada Strancar, une émission imaginée en partenariat avec le Théâtre National de Marseille-Lacrier à l'occasion de la venue de Nada Strancar pour un récital Brest-Dessau, un récital qui est présenté sur la scène de Lacrier depuis mercredi dernier jusqu'au mardi 16 novembre prochain. Nada Strancar a eu un parcours artistique exceptionnel sur les scènes de théâtre. Elle a été l'actrice d'Antoine Vitez pendant 10 ans, puis parmi d'autres de Patrice Chéreau, de Luc Bondy, de Giorgio Strehler, Joël Joanneau, Christian Schiaretti. Un parcours et une expérience de l'âge d'or du théâtre en France. Parcours d'une petite fille immigrée yougoslave, arrivée avec sa mère complètement démunie à la fin des années 50. Un parcours que Nada Strancar a bien voulu nous raconter. Un grand entretien donc sur La Grenouille, enregistré au Théâtre de Lacrier le 9 novembre dernier, entrecoupé par quelques chansons du récital Brest-Dessau.
Als ich nachher von dir ging an den großen heute, sah ich, wie ich sehen anfing, laute, lustige.
Maintenant, on dit slovène. Il y a encore quelques années, on disait yougoslave. Enfin, il y a plus de 10 ans maintenant, plus de 20 ans presque, on disait yougoslave. Non, je suis slovène. Je suis née en Slovénie, à Ljubljana. Voilà. J'ai débarqué en France à l'âge de 7 ans.
Pour quelles raisons ?
Des raisons personnelles à ma maman. Voilà. Donc, comme elle avait passé un petit moment en France pendant la guerre, elle parlait un petit peu le français. Donc, elle s'était dit que c'était le meilleur endroit où elle pouvait aller pour ne pas se sentir trop dépaysée, quoi.
Vous vous souvenez de votre arrivée en France ?
Oui, je me souviens très bien de l'arrivée à la gare de Lyon, les premières nuits dans la salle d'attente, parce que en fait on était totalement dans le cursus de l'émigré, quoi, c'est-à-dire avec rien, pas d'argent, pas de travail, enfin toute une relation comme ça nouvelle au monde, quoi. Il y a eu toute une période où on a été à l'armée du salut, et puis ensuite maman m'a mise à l'assistance publique parce que comme elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas envie de me trimballer d'hôtel en hôtel et de centre d'accueil en centre d'accueil. Et puis voilà, et puis un jour elle a trouvé du travail, et puis un peu plus tard elle a trouvé un monsieur avec lequel elle s'est mariée, et puis elle m'a récupérée. Voilà. Alors, de cette histoire un petit peu dure,
est née. Dur.
Non, j'ai pas vécu. Enfin, j'ai pas eu l'impression de le vivre difficilement. Bon, il y a eu effectivement le moment où tout d'un coup j'ai été lâchée à l'assistance publique. J'ai quand même eu un petit peu un sentiment d'abandon. Je me suis dit, enfin, ça a été un petit peu difficile, mais néanmoins, voilà, c'est... Je n'ai pas été traumatisée.
Votre maman et puis le monsieur qu'elle a rencontré, c'était une ambiance artistique à la maison ?
Pas du tout, non. Ma mère était ouvrière. Enfin, elle a commencé sa carrière comme bûcheronne, elle. Oui, ensuite, elle a travaillé à l'usine. Et mon beau-père était boucher. Donc, il n'y avait absolument... Il n'y avait aucune communication avec le monde artistique, rien du tout, non. C'était même assez étonnant que j'étais...
Oui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette voie-là ?
Je ne sais pas. Non, mais vraiment, je ne sais pas. C'est...
Des amis ?
Non. En fait, il y avait quand j'étais au collège, j'étais au collège de la rue des Alouettes à Paris, 19e, à l'âge de 13 ans. Et il y avait un club d'art dramatique, donc je me suis inscrite au club d'art dramatique, et puis voilà, puis ça m'a plu, et puis, Et puis, le premier rôle que j'ai joué, ça a été Arnolf dans l'École des femmes, parce que j'étais très grande et j'avais déjà une voix un petit peu épaisse. Et j'avais une toute petite Agnès qui était très mignonne. Et voilà, ça a commencé comme ça. Après, il y a eu le lycée où il y avait aussi un club d'art dramatique, donc je m'y suis inscrite également. Et puis, mais il y avait, en fait, c'était une période où il y avait quand même des choses formidables comme ça dans les écoles. C'est-à-dire que les profs s'investissaient énormément. Enfin, je ne sais pas si ça existe encore maintenant, ce genre de... Mais en tout cas... C'était quand même des séances après les cours. Enfin, il y avait toute une... Par exemple, le lycée Stéphane Mallarmé, où j'étais, c'était le proviseur qui tenait le club d'art dramatique. Et il a fait des choses... Le souvenir que j'ai des choses qu'il a faites, était, je trouvais que ça avait déjà une belle qualité, quoi. C'est un homme d'une culture théâtrale, d'une vraie culture théâtrale. Et il avait monté Bajazet, Chacun sa vérité, de Pirandello. Enfin, il montait des choses très, très, très... Enfin, d'une qualité, d'un niveau littéraire et artistique assez, assez fort, quand même.
Dans cette initiation à l'art théâtral, donc, est-ce qu'il y a eu un moment déclencheur où vous avez dit « ça va être ça, ma vie »
Mais la chose, c'est que, en fait, quand même, initialement, moi, je ne voulais pas être actrice. Je voulais être chanteuse. Je voulais être Callas, voilà. J'avais entendu un jour à la... J'avais entendu à la radio un jour cette voix et ça m'avait complètement... D'abord, c'est en entendant cette voix que j'ai eu un contact avec l'opéra. Enfin, ça m'avait vraiment bouleversée et enchantée. Donc, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Mais évidemment, le milieu familial n'autorisait pas tellement ce genre d'études. D'abord, parce que les études musicales coûtent cher. En fait, il faut prendre des cours. Enfin, c'est pas évident. Donc, et puis il faut s'y prendre relativement tôt quand même. Même si Kathleen Ferrier a chanté très tard, mais enfin bon, ça c'est des cas exceptionnels quand même. Et puis, faut quand même avoir une culture musicale. Enfin bon, bref.
Et donc le théâtre, c'est un peu par défaut.
Voilà, ah oui. Voilà. Mais il y a beaucoup d'acteurs qui font du théâtre par défaut. Hein. Moi, j'en connais pas mal qui voulaient être danseurs et puis qui sont devenus acteurs et puis chanteurs qui sont devenus acteurs. Enfin, ouais.
Et il y a eu un moment où vous vous êtes dit, ça va être à cet endroit-là.
Bah, en fait, je voyais bien l'engouement que j'avais pour ça. C'est-à-dire que quand même, je me consacrais beaucoup à ça, à ces clubs d'art dramatique. Parce que non seulement il y avait le club d'art dramatique du lycée, mais il y avait le club d'art dramatique de la MJC de Haute-Belleville. Enfin, j'étais très, 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 très motivée pour ça. Donc, il y a eu un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer d'aller prendre des cours. Donc à l'époque, le cours c'était Simon. Donc voilà, je me suis inscrite chez Simon. J'ai abandonné mes études parce que pour payer les cours, sinon c'était pas possible. Et alors chez Simon, c'était un petit peu difficile parce que c'était un monsieur que j'adorais. Hein. J'aimais beaucoup la manière dont il parlait du théâtre, enfin des acteurs. Mais enfin bon, il était quand même un petit peu... il avait une vision très, très, très... tout se jouait sur le physique, quoi. Tout se jouait sur les emplois, c'est-à-dire j'ai pas... Alors moi, il me disait, tu as beaucoup de talent. Ça, c'était déjà une petite gratification. Mais il me disait, je ne sais pas quoi faire de toi, tu n'as pas de physique. Parce que, qui pour une jeune fille n'est quand même pas très très délicat, quand même. Voilà. Et je pense que à ce moment-là, je me suis dit, j'ai dû avoir une espèce de pulsion de revanche, parce que j'ai dit, j'ai peut-être pas de physique, mais j'arriverai à faire quelque chose quand même, voilà. Et puis voilà. Et puis après, j'ai passé le conservatoire deux fois. J'ai été boulée la première fois, la deuxième fois, J'ai été reçue, et ça, heureusement, parce que je crois que si je n'avais pas été reçue au conservatoire, j'aurais laissé tomber. Parce que, bon, j'en avais marre.
Ah ouais. Il n'y avait pas d'autre parcours possible que passer par le conservatoire?
C'est-à-dire, moi, je faisais des castings de télé et tout ça, mais c'est toujours pareil, avec des photos, enfin, mais c'est pas ça que j'avais envie de faire, quand même. Donc le conservatoire, oui, j'avais envie de faire du théâtre, oui, oui.
De tenter le conservatoire, vous réussissez, et là-bas, vous rencontrez Vitesse, c'est ça?
Non,
c'est...
mais pas tout de suite. J'ai d'abord été chez Jacques Chamara, Georges Chamara, oh là là, bon, qui était un vieux sociétaire de la Comédie Française, qui était un monsieur adorable, mais alors lui, c'est pareil, il était complètement dans un schéma d'emploi, quoi, c'est-à-dire... Je ne pouvais pas jouer de Marivaux, je ne pouvais pas jouer les grands premiers rôles. Et en fait, j'avais droit au rôle de folle, donc les Bélises, les rôles de composition, et puis les confidentes de tragédie. Voilà. Donc après, il est parti à la retraite. Ça, je veux dire, ça a été quand même la chance, parce que je n'aurais pas eu le cœur de le quitter, parce qu'il était tellement gentil, c'était un papa gâteau, quoi. Et à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui partait de sa classe pour aller ailleurs, il était... Ça le... Ah oui, oui. Oui, donc il est parti, donc j'ai demandé à aller chez Vitesse.
Pourquoi?
Je sais pas. Je ne le connaissais pas du tout. Hein. Mais faut dire que j'étais assez ignare quand même au niveau de ce qui se passait au théâtre. Je savais qu'il y avait plein de choses qui se passaient, mais en fait, je n'allais pas souvent au théâtre parce que je travaillais souvent le soir pour continuer à pouvoir vivre, quoi, tout simplement. Et puis les seuls endroits où j'allais, c'était la Comédie Française, voilà, quoi. J'allais aussi, c'était au Théâtre Moderne, j'avais vu La Mouette de Pitoëf, mais enfin, c'était quand même, j'étais pas très 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 au fait de ce qui se passait au théâtre. Je connaissais pas Planchon, je connais Chéron, je sais pas s'il était déjà, enfin bon, oui, sans doute, mais
donc Vitesse, c'était pas
J'entendais parler de la classe de Vitesse comme d'une classe un peu étrange, bizarre. Alors je me suis dit, je vais aller voir. Et effectivement, c'était assez étrange. Hein. Enfin, dans l'espace du conservatoire, tout d'un coup...
Par rapport à ce que vous aviez vécu avant. Hein.
Ah bah oui. Bah oui, puis par rapport aux autres classes, quoi. Parce que bon, les autres classes, il y avait Lise de Lamar, Robert Manuel, Jacques Mont, qui était un tout petit peu différent... Et puis, voilà, donc tout le reste était quand même extrêmement ciblé Comédie Française, quand même. C'était très, très académique, je dirais. Et donc, je suis arrivé chez Vitesse, j'ai vu des gens qui faisaient... Enfin, alors, je vais aller dans la caricature dans laquelle tout le monde a été à cette période-là. C'est-à-dire, j'ai vu des gens qui se roulaient par terre, qui hurlaient, qui avaient une liberté du corps, mais pas simplement parce qu'ils se roulaient par terre. C'est-à-dire que on sentait qu'il y avait une liberté dans la manière de se mettre en jeu, quoi. Et là, je me suis dit, mais j'y arriverai jamais, quoi. Je ne pourrais pas. D'abord parce que j'étais extrêmement pudique et timide, donc... Et puis, je suis restée dans la classe, quand même. Alors, bon, un mois se passe, deux mois, trois mois, Vitesse me disait, mais vous, mademoiselle, quand... Je disais, je travaille. Et puis bon, je connaissais personne, donc je travaillais un monologue de la Médée de Vautier, qui est un texte magnifique. Et puis un jour, je me suis dit, bon, il faut que j'y aille, il faut que je me lance. Et là, je crois que j'ai fait mais absolument tout ce qui était possible, tout ce qui m'était possible à moi pour me désinhiber, quoi.
Et vous vous souvenez de ce texte, alors, un peu?
Moi, je me souviens du début, ça commence par abîme, abîme, enfin bon. Malheureusement, je ne me souviens plus du reste, mais enfin bon, voilà. Et puis, il m'a dit, nous allons pouvoir commencer à travailler ensemble. Donc, et puis, mais c'est pas parce que j'avais fait cette première transgression que les autres ont été faciles, hein, parce que, mais bon, je me suis dit, celle-là, je l'ai faite, et après, les choses se redurcissent, mais petit à petit, voilà. Non, la chose qui était magnifique chez Vitesse, c'est qu'il avait confiance dans les acteurs. C'est-à-dire que, d'abord, il ne m'a jamais brutalisé pour dire il faut que vous passiez, il faut que vous fassiez des choses, parce que vous n'êtes pas là pour regarder, simplement. Enfin bon, il m'a laissé le temps. Il a laissé le temps de faire mon chemin, et puis... Et puis après, la manière dont il travaillait était très... c'est-à-dire, en fait, il n'intervenait que comme regard. On avait tous les droits. Quand on prenait une scène, on pouvait la lire comme on avait envie. Alors bon, des fois c'était bien, puis des fois on faisait des trucs totalement improbables, mais c'était pas grave, parce qu'en fait ce qu'il faisait, c'est que il nous parlait ensuite de ce qu'on avait fait, et puis faisait des contre-propositions pour qu'on se rende compte aussi de comment on peut faire autrement, enfin pour qu'on réfléchisse, travailler sur la réflexion. Et pas sur le « c'est comme ça, c'est ci, c'est ça ».
Et comment il était perçu par les autres professeurs du...
Oh ben, un peu comme le diable dans la maison, hein, quand même. Non, c'est... Enfin...
Et lui, Vitesse, ça vous semblait lié à l'état d'esprit 68 et ce qui a suivi dans cette façon d'aborder le théâtre, l'acteur,
tout ça? Oui. Oui, il était très, dans. Enfin, il y avait quand même Grotowski. Enfin, il y avait toute une mouvance. Alors, il n'était pas dans cette mouvance corporelle-là. Il n'était pas du tout. Mais quand même, il était dans une recherche d'abord de forme. Il disait que la forme entraîne le sens, et pas forcément que le sens qui entraîne la forme. C'est-à-dire que, d'ailleurs, on le voyait bien sur ses spectacles. Après, quand j'ai vu le premier spectacle que j'avais vu, c'était l'Électre qu'il avait faite. J'avais vu en 71, parce que, en fait, j'étais rentrée au conservatoire. Et c'est à cette période-là, quand même, que quand j'avais vu ce spectacle, je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire.
Alors, Vitesse, évidemment, il y a toujours cette phrase célèbre du théâtre élitaire pour tous. Est-ce qu'il partageait avec ses élèves ses convictions un peu politiques
Oui, complètement, oui. Mais oui, mais parce qu'en fait, le théâtre, pour lui, d'abord, n'était pas extrait de la vie. C'était pas une espèce de d'art en soi qui n'a aucune relation avec le monde. Au contraire, le théâtre avait une relation extrêmement puissante au monde et à la politique, entre autres.
Ouais. Donc, ces années de conservatoire se sont faites toutes pour vous dans la classe de Vitesse?
Les deux dernières années, je les ai achevées chez Vitesse, oui. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de... Il m'a offert le rôle de Phèdre à la sortie du conservatoire, donc ça, c'était quand même un beau cadeau. Et puis après, j'ai travaillé 10 ans consécutifs avec lui. Ouais.
Mm.
Vous écoutez La Grenouille, c'est un grand entretien avec l'actrice Nada Strandkar, présente en ce moment à Marseille, au Théâtre National de Marseille La Criée, à l'occasion d'un récital Brecht-Dessau.
J'étais très 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 idéologique vitésienne quand même, donc ce qui était important c'était ce travail là. Alors donc du coup j'étais plutôt même assez clanique. J'étais vitésienne, je n'aimais rien de ce qui se passait ailleurs. D'abord parce que Vitesse n'avait pas une très bonne réputation. Il avait une bonne réputation dans un petit cercle très 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 fermé finalement de critiques. Donc à chaque fois ces spectacles étaient un peu à l'arraché quoi. Donc il fallait les défendre vraiment.
Néanmoins, des passerelles se sont créées puisque vous êtes allé après travailler, je crois, avec Chéreau. Vitesse. C'était un vitésien, Chéreau ?
Oh non, pas du tout. Non, non. Mais non, c'est pas du tout le même univers. Mais enfin, bon, néanmoins, il m'a engagé après m'avoir vu dans un spectacle de Vitesse. Donc, mais enfin, bon, il était très, très, très critique. Mais déjà, je pense que l'esthétique, c'est pas du tout son esthétique. Parce que Vitesse, c'était il travaillait par esquisse, par grands gestes. Chéreau, c'est un perfectionniste. Le moindre détail, la moindre intonation, le moindre costume, tout passe par lui, quoi. Donc, c'est pas du tout le même travail, pas du tout.
Avec Vitesse, vous étiez libre. Avec Chéreau, vous redeveniez un peu là.
Non, parce qu'il laissait pas mal de liberté, Chéreau aussi. Hein. C'est pas quelqu'un qui disait. C'est pas Strehler, par exemple. Strehler, lui, il était totalement directif, à l'intonation près. Chéreau, non, il nous laissait nous dépatouiller, puis quand il était content, il travaillait sur ce qu'on faisait, mais il était toujours très 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 pointilleux quoi, même par rapport aux choses qu'on avait faites. Quand il développait les choses, il était très pointilleux. Vitesse, il était plus moi je me souviens un jour, j'ai dit, parce que bon, je travaillais beaucoup avec lui, et à un moment je lui ai dit, mais Antoine, ça j'ai déjà fait dans un autre spectacle, j'en ai un peu marre de faire toujours la même chose. Il me dit, ah bon, mais je ne m'en souviens pas. Puis il me dit, c'est tellement beau quand tu fais ça. Donc c'était imparable quoi. Non mais c'est vrai, c'était pas du tout. C'est vrai que Chéreau était pugnace.
Qu'est-ce qui a mis fin à votre collaboration avec Vitesse ?
Il est rentré au Français, c'est tout. Il m'a pas engagé au Français. Mais enfin bon, non, mais je le dis sans amertume. J'étais un petit peu triste qu'il rentre au Français, à vrai dire, parce que il y avait Chaillot. Je pensais qu'il allait créer une troupe à Chaillot, justement, pour faire un pendant à la Comédie Française. Et puis bon, je crois qu'il y a eu des événements politiques qui ont fait que ça n'a pas été, enfin, qu'il a fallu qu'il aille au Français et qu'on a donné Chaillot à Savary.
À cette époque-là, quels sont les rôles que vous avez joués qui vous ont vraiment marqué ?
Ben, il y a eu Catherine sur Les Cloches de Bâle d'Aragon, Phèdre évidemment, Lucrèce Borgia. Les Molières, c'est pas tellement les rôles qui m'ont, c'est surtout l'aventure quoi. C'est-à-dire que d'avoir eu le culot de monter les quatre Molières comme ça dans une économie extrêmement de pauvreté, parce que vraiment ça a été difficile à faire, et le succès après que ça a eu, c'était quand même très 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 joyeux. On a tourné ça pendant 2 ans quand même. Et puis Lucrèce Borgia, ça fait.
Vous avez été pas mal attiré par le théâtre classique, en fait.
Mais c'est pas moi qui étais attiré, c'est parce que on ne me proposait pas d'autre chose. Là aussi, je pense que c'est à cause de ma voix, de mon phrasé, la manière dont... Oui, non, c'est... C'est très... Les gens ne me voient pas dans le contemporain. C'est très bizarre. J'ai joué Iphigénie Hôtel avec de Vinaver, ce qui m'avait fait un énorme plaisir. D'abord parce que j'adore Vinaver, et puis j'étais contente de jouer enfin une fille de mon époque. Mais sinon...
Sinon, vous étiez la tragédienne.
Oui, c'est un peu ça, oui. Ouais. Il y a eu une petite incursion chez Marivaux, avec Vitesse, dans Le Prince Travesti. Mais néanmoins, c'était toujours un peu le... Oui, côté tragique, dramatique. Enfin, bon, mais je suis très très contente, hein, parce que s'il y a des rôles quand même sublimes, hein, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais bon, j'aimerais bien faire des choses un tout petit peu plus légères.
À propos de votre voix, j'ai lu un monsieur qui s'appelle Thibaudat qui dit que vous avez une voix qui borde la langue française.
Oh, ben je ne savais pas, mais c'est très... je suis très flattée. Oui, ben écoutez, il y a eu un moment, d'ailleurs, mais j'en avais un petit peu marre qu'on parle toujours de ma voix. Je me suis dit, mais je ne suis quand même pas qu'une voix. Je suis aussi... Non, mais c'est vrai, parce que... Enfin, j'avais eu tellement de mal à mettre mon corps en route que quand même, je me disais, j'en ai marre qu'on ne me parle que de ma voix, quoi. Mais bon, c'est ma spécificité, c'est ma spécificité.
Avec Chéreau, c'était quoi ? C'est fin des années 70, début 80,
non,
le travail ?
En 81. J'avais fait Peer Gynt et puis ensuite Hamlet. Voilà.
Après, il y a eu donc Bondy,
j'ai fait Le Comte d'Hiver... Et puis Borkman.
À chaque fois, c'était avec ces metteurs en scène, c'était des expériences très très différentes ou...
Oui. Bah, Chéreau, je vous dis, c'est un pointilleux et puis il a quelque chose de très, comment dire, de très obstiné. Il y a des moments où c'est un peu. Il a beaucoup changé quand même entre Peer Gynt et Hamlet et c'est un petit peu. C'est un petit peu assoupli quand même, il était moins dur. Mais bon, la manière dont il fouillait les acteurs, il essayait toujours d'aller dans des endroits où on n'avait pas forcément envie d'aller.
Et Bondy ?
Ben Bondy, il est plus dans la mouvance, je dirais, un peu stanislavskienne, c'est-à-dire très, très psychologique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec lui parce que il est très dans le raffinement comportemental. Il cherche la manière dont il explore les textes, c'est plus sur le. Qu'est-ce que c'est que les comportements des personnages ? Comment les actes manqués, comment les choses se disent et pas forcément d'une manière claire. C'est-à-dire, enfin voilà, je trouve qu'il est, c'est très, il a un côté très 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 recherche de l'humain. De l'inconscient, quoi. J'aime bien ça.
Là, on est dans la période des années 80, c'est les années Jacques Lang, tout ça. Bon, vous avez dit, je ne sais plus où, que vous avez un peu connu l'âge d'or du théâtre. Ça correspond à cette période-là pour vous
Pour moi, l'âge d'or, ça a été à partir du moment où je suis sorti du conservatoire jusque dans les années 90, je dirais. Mais en fait, parce que tout était possible. D'abord parce qu'il y avait beaucoup plus de moyens qu'on en a maintenant. Tout était possible. Il n'y avait pas d'autocensure. J'avais l'impression que toutes les formes étaient possibles, qu'on pouvait faire n'importe quoi, parce que c'est pas du n'importe quoi. C'était que tout d'un coup, l'espace était ouvert. Voilà. Alors que là, j'ai l'impression que l'espace se referme. Mais bon, en ce moment, il y a pas mal de jeunes gens, justement, avec les collectifs et tout ça, qui commencent à à naître et à faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire avec peu de moyens. Et je trouve que, enfin bon, là, il y a apparemment des expériences assez intéressantes. Ouais.
Et qu'est-ce qui a mis fin à cet âge d'or du théâtre, selon vous ?
Je ne sais pas. Nous, peut-être aussi, je ne sais pas. Peut-être aussi qu'il y a eu un moment où on s'est un peu endormi. Je ne sais pas.
Quel regard aujourd'hui vous avez sur le monde du théâtre en France, en Europe ? On est dans quel âge aujourd'hui ? On n'est plus dans l'âge d'or, on serait dans quel âge ?
La chose qui me semble, c'est qu'il n'y a plus de père, il n'y a plus de grand frère, et que les jeunes gens qui arrivent sont un peu dans un espace où il n'y a pas beaucoup d'aide. Nous, on avait beaucoup de chance, parce que dans les années 70, je veux dire, il y avait quand même, à Paris, il y avait toute la ceinture rouge, enfin, toute la ceinture communiste, justement, qui faisait une politique culturelle extrêmement importante, quand même. Il y avait eu la salle, enfin, bon, Vitesse à Ivry, il y avait plein de petites structures comme ça, enfin petites, oui petites, parce que quand même Ivry c'était une petite structure, mais où il se passait vraiment beaucoup de choses, donc, et avec quand même des pouvoirs publics qui s'engageaient dans une politique culturelle, même si elle était pécuniairement un peu pas toujours à la hauteur, mais quand même, je veux dire, ils défendaient ça. Là, maintenant, j'ai l'impression que, franchement, que les théâtres, qu'il y ait des théâtres ou qu'il n'y en ait pas, personne n'en a plus rien à foutre, quoi. Mais vraiment. Il y a quand même un désengagement, je trouve, de la sphère politique, ouais. Mais aussi bien régional qu'au sommet de l'État. Enfin, bon, il n'y a qu'à voir, quand même. Maintenant, ce qu'on aime, c'est quand même le côté. Animation, quoi. On aime plus les animations que... Voilà.
La Grenouille, c'est un grand entretien avec l'actrice Nada Strandkar, présente en ce moment à Marseille, au Théâtre National de Marseille La Criée, à l'occasion d'un récital Brecht-Dessau.
Votre fameuse voix vous amène aujourd'hui à chanter. Enfin, c'est la reprise d'un spectacle qui a été créé en 2008 à Lyon avec Christian Scaretti, je crois.
2007. Hein. 2007.
Donc, c'est Nadia Strancar chante Brecht. Les musiques sont signées Paul Dessau. Alors, Brecht, on l'associe plus banalement à Kurt Weill qu'à Dessau. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est né et ce projet et qui est ce monsieur Dessau?
Le projet, il est né d'une manière assez simple. C'est qu'un jour, j'ai raconté à Christian, effectivement, mon rêve de petite fille, d'être chanteuse. Et il me dit, pourquoi on ne le ferait pas? Alors, et c'était tout de suite après Mère Courage. Donc, j'ai dit, oui, ça serait bien. Je ne savais pas encore quel répertoire j'avais envie de faire. Parce que, en fait, je voulais faire aussi du Tom Waits, du Patti Smith, enfin bon, voilà, donc, et donc on s'est mis à réfléchir sur le répertoire, et je me suis dit, tiens, je vais aller voir chez Dessau, parce que Kurt Weill, je me disais, j'ai pas envie de chanter du Kurt Weill d'abord, parce qu'il y a beaucoup d'actrices ont fait ça, toutes les actrices allemandes déjà, entre Anna Chigoula, Ingrid Cavan, enfin, on avait tout un tas de références comme ça. Bon, moi j'adore la musique de Kurt Weill, mais je me suis dit, tiens, je vais aller voir dans Dessau pour voir un peu ce que. Et en fait, je me suis aperçu qu'il avait écrit beaucoup de musique. Pour les pièces de, il y a le Cercle de Craie, il y a Puntilla, il y a je sais plus, enfin bon, il y a Mère Courage. Et puis en fait, j'avais adoré la musique de Mère Courage, donc voilà.
Qu'est-ce qui vous séduit dans cette musique?
Son âpreté. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est une musique. Elle est beaucoup moins glamour que la musique de Kurt Weill. Elle a un côté irréductible. Elle n'est pas dans la séduction, voilà. Alors que Kurt Weill, je trouve que il y a des airs magnifiques, mais je trouve que c'est plus un côté déjà un peu Broadway comme ça. Et puis voilà. Et puis bon, Eisler, bon, j'avais pas vraiment. Enfin, je me suis dit, je vais prendre Dessau parce que en fait, comme j'ai déjà abordé avec Mère Courage, je vais essayer de voir un peu. Donc après, je me suis mise à chercher des chansons et puis ça, cette occasion que je me suis aperçue qu'en fait, il avait écrit beaucoup de musique pour d'autres pièces. Et puis ensuite, j'ai été un petit peu plus loin. Tiens, je vais aller voir dans les petits, dans des leads, qu'est-ce qu'il a écrit comme lead. Alors là, il y a eu des petits poèmes animaliers qui sont aussi des poèmes de Brecht, qui sont très, 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 très caustiques et qui sont d'une facture beaucoup plus contemporaine musicalement. En fait, il a une longévité musicale parce qu'il est mort en 1974, je crois. Donc, en fait, il est mort beaucoup plus tard que Brecht et que Weill, qui sont morts. Enfin, Weill est mort jeune.
Et vous avez décidé de ne pas adapter les textes en français, de les garder en allemand?
Parce que je trouve que cette musique, elle ne convient qu'à la langue allemande. En français, pour moi, c'est de l'ordre de l'impossible. Mais même, quand Christian avait dit qu'il voulait monter Mère Courage, je lui ai dit, mais moi, je veux chanter les chansons en allemand, parce que le français ne correspond absolument pas à cette langue, quoi. Pas du tout.
À la musique, vous voulez dire?
Oui, à la musique. Oui, à la musique, oui.
Comment vous avez travaillé sur l'interprétation de ces chansons alors?
Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ce que ça racontait textuellement. D'abord parce que je ne lis pas la musique, donc tout ça est quand même extrêmement instinctif. Et j'ai plus travaillé sur la manière dont étaient composées les chansons, enfin le texte des chansons, c'est-à-dire parce que c'est vraiment des textes qui racontent des petites histoires, quoi. Donc je me suis attachée à raconter des histoires sur chaque texte. Mais c'est très très étrange, vous savez, parce que finalement je me rends compte que le chant, c'est comme une chose un petit peu en dehors de moi. En fait, ça m'est beaucoup plus facile de chanter. J'ai moins peur que quand je joue, alors que ça fait 40 ans maintenant quasiment que je joue, et que à chaque fois je suis toujours dans le même état de panique. Alors qu'en chant, bon, j'ai peur, mais c'est comme si les choses étaient devant moi et pas à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment expliquer. Voilà. De cette
façon-là. Ben merci beaucoup.
Oui, je vous en prie.
C'était Nada Strandkar sur La Grenouille, un entretien enregistré le 9 novembre dernier au Théâtre National de Marseille-la-Criée, une émission imaginée à l'occasion du récital Nada Strandkar chante Brecht-Dessau, présentée sur la scène de la Criée depuis le 10 novembre dernier jusqu'à mardi 16 novembre prochain, avec François Martin au piano, Guillaume Blaise aux percussions, Jean-Luc Manca à l'accordéon, une direction de Jean-Claude Malgoire, une mise en scène de Christian Schiaretti. Des places sont à gagner sur La Grenouille pour ce spectacle dans le 5 à 7 de Johanna du lundi au vendredi de 17 à 19h. Plus d'infos, réservations et contacts au 04 91 54 70 54 ou sur www.théâtre-lacrier.com.